Loué et remercié soit le Seigneur aussi pour ce moment de grâce où nous pouvons à nouveau être réunis ici pour l'adorer, pour lui apporter l'honneur et la louange. Avant de nous prosterner, avant d'adorer, lisons ensemble le psaume 119, le psaume 119 du verset 57. Mon devoir, ô Seigneur, je le confesse, est d'observer tes paroles. Ce sont des paroles très précieuses. Je pense que tous ceux qui les lisent doivent entrer en eux-mêmes et y réfléchir. Ici, cet homme de Dieu dit, mon devoir, ô Seigneur, je le confesse, c'est d'obéir, c'est d'observer tes paroles, d'obéir à tes paroles. Je pense que ce n'était pas seulement la tâche de cet homme de Dieu qui a prononcé cela, mais je pense que l'Esprit de Dieu l'a conduit de telle manière qu'il a dû reconnaître que sa tâche est, comme il est écrit ici, d'observer tes paroles. Je crois qu'il en va de même pour nous. Si nous sommes croyants, nous pourrions dire la même chose, chacun pour soi. Mon devoir, ô Seigneur, je le confesse, est d'obéir à tes paroles. Beaucoup disent peut-être, Seigneur, parle-moi, fais ceci et cela. Mais la question est ensuite, lorsque Dieu parle, de savoir si ses paroles sont mises en pratique ou si l'on poursuit ses propres pensées malgré tout et ses propres voies. C'est ce à quoi nous devons réfléchir. Cet homme de Dieu avait en lui le désir d'obéir, d'observer la parole de Dieu. Et cela dans la pratique. Et en nous aussi, il y a ce désir de suivre la parole de Dieu, d'obéir, de l'observer, de la pratiquer. Ce désir doit être présent en toi et en moi. Car si nous n'obéissons pas, si nous n'observons pas sa parole, nous ne pouvons pas nous dire sa propriété. Nous ne pouvons pas dire que nous lui appartenons. Car le Seigneur a dit, mes brebis, écoute ma voix. Et que font-elles? Et elles me suivent. Bien-aimés, si nous sommes les brebis de Dieu, si nous avons entendu la voix de Dieu, nous ne pouvons pas faire autrement que de suivre cette voie. Beaucoup peuvent dire, Dieu n'a pas parlé, nous voulons que Dieu parle d'une manière ou d'une autre, de cette manière et de cette manière. Nous savons que Dieu a parlé, même de nos jours en particulier, et qu'il parle encore par sa sainte et précieuse parole. Et Dieu ne parlera pas comme tu le veux ou comme je le veux, mais il parlera comme il le veut. Et il se révèle comme il le veut. Et à qui il veut. Et toi et moi, nous ne sommes pas du tout compétents pour lui dicter la manière dont il doit se manifester. Non. C'est à lui de le faire. Il sait comment il doit se révéler. Il sait à qui il doit se révéler. Il sait de quelle manière il doit se révéler. Ce n'est pas à toi ni à moi de lui dicter sa conduite. Ce que nous devons faire, c'est ce qui est exprimé ici dans ce verset. Ce que cet homme exprime. Psaume 119, 57. Mon devoir au Seigneur, je le confesse, est d'observer tes paroles. De nos jours, et nous le mettons toujours sur le chandelier, il nous a fait connaître ses paroles d'une manière si merveilleuse. Il nous a révélé sa parole et son projet avec tant de puissance. Mais maintenant, il s'agit de suivre sa parole, de l'observer, de la mettre en pratique, de lui obéir. Ainsi, c'est notre devoir. Ton devoir est mon devoir. Ma tâche n'est pas de montrer l'autre du doigt, de pointer l'autre du doigt et de regarder à l'autre pour voir s'il obéit à la parole de Dieu, mais de plutôt voir si moi-même j'obéis à la parole de Dieu. Moi, personnellement, comment suis-je aux yeux de Dieu? Vous savez, il y en a tellement. Ils sont juste là et ne font que juger les autres sur ce qu'ils sont réellement. Mais pourquoi? Mais parfois, ils ne se voient pas du tout tels qu'ils sont eux-mêmes. Mais n'est-il pas important que nous nous voyons tels que nous sommes nous-mêmes? Et je crois qu'il n'y a plus de place pour que nous puissions encore porter un jugement sur les autres et que nous puissions juger les autres. Mais alors, nous voyons assez et nous avons assez à faire avec nous-mêmes. Ce verset est devenu très important pour moi. J'espère qu'il nous va droit au cœur, chers frères et sœurs, car c'est par là que Dieu nous parle, à toi et à moi ce soir. Et si ce n'est qu'un verset qui nous met sous les yeux, mais c'est sa parole. Et cet homme de Dieu ne l'a certainement pas prononcé de lui-même, mais je crois très certainement que la révélation est venue d'en haut et lui a inspiré cela de telle sorte que toi et moi pouvons ce soir nous mettre ce verset sous les yeux et que je puisse m'examiner pour savoir si je suis ainsi ou non. Ma tâche, mon devoir, quelle est ta tâche? Quel est ton devoir? Quelle est ma tâche? Je crois que nous avons tous cette même tâche, ce même devoir d'observer tes paroles. Ô Seigneur, et pour cela que Dieu nous aide, de nous-mêmes, nous ne sommes même pas capables. Nous sommes incapables, mais s'il nous aide, alors nous sommes aidés. S'il nous assiste, alors tout est clair. Et nous pouvons alors remercier Dieu. Le verset 58, « De tout mon cœur, je t'implore. » C'est ce que dit ici cet homme de Dieu. « Aie pitié de moi, fais-moi grâce selon ta promesse. » Vous voyez, ces grands hommes de Dieu, ils n'ont pas dit n'importe quoi superficiellement, mais de tout mon cœur, je t'implore, dit-il. Oui, que devons-nous dire, bien-aimé? Comment devons-nous le supplier? Je ne sais pas, mais n'est-il pas vrai que parfois nous ne l'implorons pas du tout? N'est-ce pas parfois que nous restons fermés? Notre cœur et notre bouche et tout reste fermé devant lui? N'est-ce pas parfois le cas? Nous pouvons tous nous examiner. De tout mon cœur, je t'implore. De tout mon cœur, je t'implore. Fais-moi grâce selon ta promesse. A-t-il promis d'être miséreux? A-t-il promis de nous faire grâce? Il l'a promis et nous le savons. Les promesses de Dieu demeurent. Elles ne chancellent pas éternellement. Cet enseignant que Jésus a scellé, ce qu'il promettait sur la croix. J'ai réfléchi à mes voies, verset 59, et je ramène mes pas vers tes témoignages. Bien-aimés, nous aussi, nous devons peut-être réfléchir à tous nos chemins et regarder en arrière. Et puis, cet homme de Dieu dit qu'après avoir réfléchi, il a ramené ses pas vers les témoignages de Dieu. Je crois qu'il ne nous reste plus qu'à faire de même. Qu'à faire de même. Verset 59, j'ai réfléchi à mes voies. As-tu déjà réfléchi à tes voies? à toute ton existence, à ta vie. Après tout, elle est courte. Aujourd'hui, nous sommes là. Demain, nous pouvons déjà être emportés. Cela peut t'arriver très vite. Nous voyons très bien que tout va très vite. Mais réfléchissons à nos chemins. Et il dit, je ramène mes pas vers tes témoignages. Oui, si Dieu ne nous aide pas à ramener nos pas vers sa parole, pas seulement nos pas, nos pensées, tout notre cœur vers sa parole, alors tout va mal. Mais louange et merci à notre Seigneur, il veut nous aider, il veut nous faire grâce en ces heures. Et même si parfois des épreuves ou des tentations surviennent et que certaines choses ne nous plaisent pas, nous aimerions bien que tout se déroule sans problème, mais tout ne se passe pas si bien que cela dans la vie. Il y a tant de choses qui arrivent dans ta vie, dans la mienne et dans beaucoup d'autres. Mais qu'il dirige nos pas et nos pensées vers ce qu'il a dit. Et alors, bien-aimé, tout ira bien. Je pense que nous devrions l'adorer du fond de nos cœurs, lui offrir, lui apporter l'honneur et la louange, même en cette heure du soir. Levons-nous et faisons-le ensemble. Dieu fidèle, nous te remercions de tout notre cœur, du plus profond de nous-mêmes. Nous t'invoquons, Dieu fidèle, comme ce psalmiste, de tout mon cœur, je t'implore, Seigneur fidèle, que ce ne soit pas seulement des paroles, mais que notre être intérieur, notre cœur tout entier, soit dans la chose, encore ce soir, alors que tu nous parles par ta sainte et précieuse parole, tu te fais connaître au Seigneur de la manière que tu t'es réservé. Nous t'adorons et te demandons d'avoir, de nous faire grâce, d'avoir pitié de moi selon ta promesse. Seigneur, tu as promis d'être avec nous tous les jours de notre vie. Là où nous nous éloignons de toi, Seigneur, viens à notre rencontre, ô Seigneur, et redirige nos pas et nos démarches vers ton témoignage, ô Seigneur. C'est mon désir ce soir et ma prière. Seigneur, je crois que c'est aussi le désir de mes frères et sœurs. Donne-nous tous la grâce de lever nos regards vers toi ce soir et de t'offrir l'honneur, l'adoration et la louange pour tout, car tu es notre Dieu, Seigneur. Tu nous as parlé, tu nous parles encore, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur! Quel amour, Seigneur! Tu nous témoignes tout le jour, tout le temps et à toute heure, Seigneur, où nous nous réunissons au Seigneur. Nous te remercions et te prions. Bénis-nous ce soir. Bénis mon frère, Seigneur, qui va apporter ta parole. Et bénis-nous tous qui sommes venus recevoir ta parole. Adoration et gloire à ton saint nom du fond de mon cœur. Alléluia. Amen. Dans de telles heures, ce n'est pas facile de dire quelque chose. J'ai lu le psaume 119, quelques versets qui traitent. J'ai vu dans le psaume 119 plutôt, pas j'ai lu, mais j'ai vu quelques versets qui traitent tous du même sujet, toujours de la même parole de Dieu, toujours de la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, rien ne s'est produit dans la création. Et sans la parole de Dieu, rien ne se produira dans l'Église et avec l'Église. Toutes les choses se produisent selon la parole de Dieu. Dieu a parlé et cela s'est produit. Tout ce que Dieu a dit s'est produit. Si nous voulons voir l'accomplissement de la parole de Dieu, nous devons croire ce qu'il a dit, ce qu'il a promis. On pourrait lire ici un grand nombre de versets dans le plus long des psaumes. Il est dit ici, au verset 17, psaume 119, verset 17, « Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. » Si nous allons ensuite un peu plus loin dans le même psaume au verset 38, « Accomplis en ton serviteur ta promesse qui vise à ce qu'on te craigne. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont salutaires. » Verset 40, « En vérité, j'aspire à tes ordonnances. Fais-moi revivre par ta justice. » Verset 49 et 50, « Garde fidèlement à ton serviteur ta parole, en laquelle tu m'as fait espérer. » Verset 50, « C'est ma consolation dans ma misère, parce que ta parole m'a fait revivre. » Les pensées glorieuses qui s'expriment partout. Avons-nous déjà remarqué consciemment le verset 38? Accomplis envers ton serviteur ta promesse qui vise à ce qu'on te craigne. L'accomplissement des promesses de Dieu ne vise pas à ce que toi et moi soyons vus ou entendus. L'accomplissement des promesses de Dieu vise à ce que Dieu soit honoré, craint, respecté. Et comme nous l'avons déjà lu ici au verset 57, mon devoir, ce n'est pas la tâche des non-croyants, mais celle de ceux à qui Dieu a parlé, qui ont reçu la promesse, qui ont aimé la parole de Dieu, qui la portent dans leur cœur. C'est à eux qu'elle est adressée ici. David n'était pas le seul. Nous avons été comptés parmi eux par grâce, car Dieu nous a aussi parlé. Il nous a également fait des promesses et nous pouvons dire ce que David a dit ici. Psaume 119, verset 57, « Mon devoir au Seigneur, je le confesse, est d'obéir à tes paroles. » Verset 58, « De tout mon cœur, je te supplie, aie pitié de moi selon ta promesse. » Verset 59, « J'ai réfléchi à mes voies et je ramène mes pas vers tes témoignages. » Verset 67, « Avant d'être humilié, je m'égarais, mais maintenant, j'observe ta parole. » Verset 81. « Mon âme languit après ton secours. J'attends ta parole. » 82. « Mes yeux languissent après ta promesse, demandant quand me consoleras-tu. Verset 89. Non, c'est déjà. Oui, 89. Pour l'éternité, ô Seigneur, ta parole est ferme dans les cieux. Verset 105. Ta parole est une lampe à mon pied, une lumière sur mon sentier. On pourrait lire et relire. Verset 147. Je me lève de bonne heure avant l'aurore et je crie à haute voix. J'espère en ta parole. Et ensuite le verset 154. Défends ma peau, ma cause, délivre-moi. Donne-moi une vie nouvelle selon ta promesse. Puis le verset 160. Tout le contenu de ta parole est vérité et tout décret de ta justice est éternel. 161. Des princes m'ont persécuté sans raison, mais mon cœur ne tremble que devant tes paroles. Psaume 119, verset 162. Je me réjouis de ta parole comme celui qui gagne un grand butin. N'est-ce pas là quelque chose de glorieux? Je repense encore à la soirée de mercredi. Relisons ce verset ou ces deux versets qui... ces deux versets, puis passons à la Genèse et peut-être au Nouveau Testament. Dans Ésaïe, chapitre 1, versets 19 et 20, « Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays, mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévoré par le glaive, car la bouche du Seigneur a parlé. » Je voudrais lire le cas d'Abraham lorsqu'il a sacrifié Isaac. C'est un cas d'obéissance, de volonté, de bonne volonté. Il n'a pas refusé, il n'a pas été récalcitrant, il a obéi à Dieu. Et cela devint pour lui une bénédiction. La justice, le salut, la félicité, tout ce dont il avait besoin pour l'éternité. Ici, le sacrifice est décrit, mais je lis du verset 15, Genèse 22, du verset 15. Là-dessus, l'ange du Seigneur appela Abraham du ciel pour la deuxième fois en ces termes. Verset 16. Je le jure par moi-même. C'est ainsi que le Seigneur s'exprime. Parce que tu as agi ainsi et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Verset 17. Je te bénirai abondamment et je rendrai ta descendance extrêmement nombreuse comme les étoiles du ciel et comme le sable du rivage de la mer. Et ta descendance possédera les portes de ses ennemis. C'est uniquement parce qu'Abraham a obéi que cela est considéré comme une promesse générale pour tous ceux qui, comme Abraham, croient Dieu, lui obéissent, n'ont pas d'opposition, de rébellion, mais la foi liée à l'action à apporter au Seigneur. Ils ne seront pas seulement bénis, mais ils domineront les portes de leurs ennemis. Ils les contrôleront, ils les prendront, ils les posséderont, posséderont. Ça, c'est la promesse que Dieu a faite quand on y réfléchit. Toute promesse de Dieu est vraie. Et je pense maintenant au peuple d'Israël, et plus précisément à deux temps particuliers. Le premier temps lorsqu'ils étaient en captivité à Babylone, et le second dans la dernière génération, lorsqu'ils ont su que leur temps était venu de retourner sur la terre de leur père. Et je pensais à la révolte du ghetto de Varsovie, à certaines choses, ils savaient à quoi ils étaient destinés. Et ils ne pouvaient presque plus supporter cette humiliante oppression. Ils ont retrouvé dans leur cœur cette certitude. Ils ont retrouvé dans leur cœur cette certitude. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes destinés à dominer sur nos ennemis. Nos ennemis ne sont pas destinés à nous piétiner avec leurs bottes, à nous abattre avec la crosse de leurs fusils. Mais notre tâche et notre destin sont tout autres. J'ai dû y réfléchir. Nous, en tant que peuple de Dieu, nous ne sommes pas destinés non plus à ce que l'ennemi nous piétine. Nous sommes destinés à avoir autorité sur toute la violence de l'ennemi. C'est ce qu'a dit le Seigneur. Je vous donne pouvoir sur toute la puissance de Satan. Luc 10, 19. Et le Seigneur dit, vous marcherez sur des serpents et des scorpions, et il ne vous sera fait aucun mal. Nous devons reconnaître qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu que des forces ennemies règnent sur nous. Parfois, il faut peut-être en arriver au point où l'on a presque envie de se révolter intérieurement et de nous dire, Seigneur, ce n'est plus possible, ce n'est pas ma destinée ni la nôtre, mais le Seigneur a dit, et c'est sans doute encore écrit aujourd'hui, encore dans le psaume 110, assieds-toi à ma droite, verset 1, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis un escarbot pour tes pieds. Et nous savons que toutes ces paroles doivent être vraies. Nous savons qu'elles sont vraies, mais elles doivent être confirmées comme vérité. L'Église du Seigneur est destinée à poursuivre le ministère que le Seigneur a commencé. Lui, la tête et nous, le corps. Il a brisé la voie, il a aplani le chemin, nous devons y marcher. Dans ce contexte, la parole du prophète Ésaïe m'a fait comprendre que Dieu avait donné à Abraham un cœur obéissant. Tout le monde peut croire, puis s'arrêter et faire du surplace. Mais Abraham a cru, il a été obéissant et a fait ce que Dieu lui a dit. Et l'ange du Seigneur lui cria pour la deuxième fois du haut du ciel les paroles suivantes, verset 16, Genèse 22. Je le jure par moi-même. À nous, à moi et à toi, dit Dieu, ne jurez pas par le ciel, car il est mon trône, ni par la terre, car elle est l'escabeau de mes pieds. Et il dit ici, je jure par moi-même. Dieu voulait faire savoir à Abraham par un serment que cela vaut devant moi dans le ciel et sur la terre. Rien de tel ne s'est jamais produit auparavant. Nous savons que c'était déjà une allégorie du Christ qui a porté sa propre croix, comme Isaac a porté le bois, qui a été construit pour l'autel sur lequel il a ensuite été déposé et attaché. Et alors qu'Isaac demandait, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Et Abraham répondit, Dieu pourvoira bien à un mouton pour l'Holocauste. Nous connaissons tous toute l'histoire. Et le Seigneur de l'âge de son corps spirituel en tant qu'ange du Seigneur s'exclame à ce sujet, verset 16. Je le jure par moi-même. C'est ce que dit le Seigneur, parce que tu as agi ainsi et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Verset 17. Je te bénirai abondamment. Et je rendrai ta descendance extrêmement nombreuse, comme les étoiles du ciel et comme le sable du rivage de la mer. Et ta descendance possédera les portes de ses ennemis. Il ne peut en être autrement. Si nous croyons, si nous sommes obéissant et si nous faisons ce que Dieu a dit dans sa parole, cette promesse nous concerne. Nous ne pouvons pas nous soustraire de la responsabilité, tout comme Dieu ne peut pas non plus se soustraire à cette responsabilité qui a été prise. Il l'a dit et cela reste ainsi. D'un point de vue spirituel, nous sommes la descendance d'Abraham. Et si nous passons au Nouveau Testament, quelle promesse merveilleuse Dieu a faite et a dit au peuple d'Israël qui ils étaient et ce qu'ils étaient. Je voudrais en lire une, tout de suite tirée du troisième chapitre des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du verset 25. Vous êtes les fils des prophètes et vous appartenez à l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères lorsqu'il a fait la promesse à Abraham, dans ta descendance, toutes les races de la terre seront bénies. Dieu a fait la promesse à Abraham pour toutes les races de la terre. Si nous voulons être tout à fait précis, voici ce que cela signifie. Pour tous les vrais croyants de toutes les races qui, comme Abraham, font ce que Dieu a ordonné dans l'obéissance de la foi. Il ne s'agit pas ici de peuple entier, mais du peuple de Dieu tout entier, composé de tous les peuples, de toutes les langues, de toutes les nations. Et si nous avons compris cela, c'est que nous en faisons aussi partie. Lorsque nous lisons l'alliance que Dieu a conclue, nous ne pensons pas à Genèse 22, mais à Exode 20, où Dieu le Seigneur est descendu sur le mont Sinaï et où la conclusion de l'alliance, où la législation a eu lieu. Ici, l'homme de Dieu, l'apôtre, revient à Abraham et tient devant ses concitoyens, les Juifs, en disant, au verset 25, Actes chapitre 3, vous êtes les fils des prophètes et vous appartenez à l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères quand il a fait la promesse à Abraham. Dieu avait déjà conclu l'alliance en Abraham et avec Abraham et par Abraham, avec Isaac, avec Jacob et avec toute la descendance. Pour Dieu, c'était déjà une chose qui existait. Dieu avait déjà vu les choses qui n'étaient pas encore visibles pour les yeux, car elles faisaient partie intégrante de son plan de salut divin. Paul l'explique en particulier dans Galates 3. Il n'y a pas de meilleur chapitre dans tout le Nouveau Testament qui exprime l'importance de, qui exprime l'importance de la signification de la loi, de la grâce, de la promesse et de la bénédiction, comme il l'a fait dans Galates 3 de manière très, très claire et concise. Il est dit du verset 6, Galates 3, verset 6, oui, c'est comme pour Abraham, il crut Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Vous reconnaissez donc que les croyants, ce sont les fils d'Abraham. Les croyants, ce sont les fils d'Abraham. Que les fils d'Abraham sont les croyants. C'est à eux que s'appliquent les promesses. C'est à eux que s'applique l'héritage. C'est à eux que s'applique ce que Dieu a promis. Et il est encore dit ici, Galates 3, 8, mais parce que l'Écriture a prévu que Dieu justifierait les nations à cause de la foi, elle a annoncé d'avance à Abraham la promesse du salut. Toutes les nations seront bénies en toi. Verset 9, ainsi, ceux qui sont de la foi reçoivent la bénédiction avec Abraham le croyant. Dieu n'a pas dit à Moïse, en toi seront bénies toutes les nations. Moïse a transmis la loi. Et la loi a convaincu du châtiment. Et le châtiment, nous savons ce qu'il est. C'est la mort. Dieu a voulu bénir en Abraham. Dieu s'est servi d'Abraham, a utilisé Abraham pour offrir Isaac en sacrifice, pour montrer ici le Fils est exposé, est livré, voué à la mort. Mais ici aussi, il y a une résurrection, une vie nouvelle. Dieu se choisira un sacrifice. Et quand Abraham voulut tuer le fils Isaac, oui, le Seigneur cria pour la première fois les paroles suivantes, ne le fais pas. Vous connaissez l'histoire, vous l'avez certainement tous lu tout à l'heure. Dieu dit, en Abraham, je bénirai toutes les nations. Verset 7, vous voyez donc que les croyants sont les fils d'Abraham. Pas en Moïse. La loi est venue par Moïse. La loi convainc du péché. La loi n'a pas en elle de grandes bénédictions. La loi a en elle des malédictions. Celui qui ne garde pas la parole de la loi est sous la malédiction. Et nous pouvons le lire ici tout de suite à partir du verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Deutéronome 27, 26. Verset 11 et que, donc Galates 3, verset 11 maintenant, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la foi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Verset 12. Verset 12, or la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui était promis. Notre Dieu est un Dieu glorieux, un Dieu omniscient. Il a eu une vue d'ensemble de toute l'éternité déjà. Vous voyez de quoi il s'agit? En Abraham, ce n'est pas seulement une race, ce n'est pas seulement un peuple, mais toutes les races, tous les peuples de la terre qui devaient être bénis. Et ici, il nous est dit dans Galates 3, verset 13, Christ est devenu malédiction afin de nous racheter de la malédiction de la loi. Car il est écrit, maudit est quiconque est maudit au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Par la foi. Ça, c'est la promesse que Dieu a faite. Elle est exprimée très clairement et on remarque ce qu'elle contient dans ce que Dieu a à nous dire. C'est à vous que s'applique l'alliance, la promesse. Vous pouvez lire dans Romains 9, au verset 4, vous pouvez le lire. Il est dit ici, ce sont des Israélites à qui appartiennent la position de fils, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses. Au verset 5, auxquels appartiennent les patriarches et dont est issu le Messie selon la chair, lui qui est Dieu au-dessus de tout, loué éternellement. Amen. Et vous remarquerez tout de suite la suite. Au verset 6, je ne veux pas dire par là que la promesse de Dieu soit restée sans effet. Comme dans Galates 3, Paul ici développe la question de la loi, de la promesse et de la foi. Il est dit ici, dans Galates 3, verset 17, ce que je veux dire, c'est qu'une disposition que Dieu a déjà rendue pleinement valable auparavant ne peut pas être annulée par la loi qui n'est venue que 430 ans plus tard, de sorte qu'elle annulerait la promesse. Verset 18. En effet, si l'héritage promis dépend de la loi, il ne dépend plus de la promesse. Or, c'est par une promesse que Dieu l'a accordée à Abraham comme le don de la grâce. Avant cela, nous aurions certainement dû lire quelque part que la loi a été donnée que à cause de la transgression. Oui, c'est écrit ici au verset 19. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Le verset 20, or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Vous pouvez lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 7, où il est question de cette chose, que Moïse était le médiateur là sur le mont Sinaï. C'est écrit ici dans Actes des Apôtres 7, du verset 35. Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? C'est lui que Dieu a envoyé comme chef et comme sauveur par l'intermédiaire de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est celui-ci qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pied d'Égypte et au bord de la mer Rouge et pendant 40 ans dans le désert. Verset 37, c'est ce Moïse qui a dit aux Israélites, Dieu vous suscitera un prophète comme moi d'entre vos frères. Verset 38, c'est lui qui, lors de l'assemblée rassemblée dans le désert, a été le médiateur entre l'ange qui lui a parlé sur le mont Sinaï et nos pères, le même qui a reçu des paroles vivantes pour nous les communiquer. C'était la fin du verset 38. Moïse disait, le Seigneur, votre Dieu, fera surgir du milieu de vos frères un prophète comme moi. Le Christ devait être prophète. Il devait donc être le médiateur d'une nouvelle alliance afin de nous apporter pas seulement des paroles ou la loi, mais la grâce et le salut. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 26, verset 28, ceci est la nouvelle alliance à mon sang. Ah, si nous réfléchissons à tout ce que Dieu a fait, à la manière glorieuse dont tout le conseil a été établi ici, et aussi pour le fait que Dieu a donné cette grâce aux apôtres par le même esprit, dans le même esprit dans lequel les prophètes ont agi, ont parlé et écrit de la même manière, dans le même esprit, de présenter tout cela dans le même esprit, de le présenter ainsi. Et nous allons encore un peu plus loin. Et nous ne parlons pas de nous, mais vraiment de Dieu qui nous a fait la grâce de pouvoir marcher dans le même esprit maintenant, dans la même révélation, dans les mêmes traces des prophètes et des apôtres, dans les traces de notre Seigneur et de reconnaître la parole comme une révélation totale telle qu'elle nous a été donnée en ces derniers jours et de la recevoir dans la foi. Je pense que nous devons beaucoup, beaucoup de remerciements à notre Dieu pour cela, car il nous a fait la grâce de ne pas seulement contempler ce qui a été, mais de nous faire savoir que nous aussi, nous appartenons à son programme, et que nous y avons été intégrés. Je suis reconnaissant à Dieu d'avoir eu Paul, qui a utilisé l'Ancien Testament d'une manière particulière, et qui a employé l'Ancien Testament, oui, d'une manière particulière, et qui a expliqué dans le Nouveau Testament comment s'est accompli tout ce que Dieu a annoncé dès le début par la bouche de ses saints serviteurs et prophètes. Je suis mais aussi reconnaissant à Dieu pour Frère Branham de ce que nous puissions être ainsi conduits dans tout cela en ces derniers jours. Quelle grâce! Pas de dispute sur la haute connaissance, sur les doctrines, mais une introduction dans le dessein, dans le conseil de salut de notre Dieu. Et comme Abraham, nous pouvons marcher sur le chemin de la foi. Revenons à la parole d'introduction. Seigneur, d'observer tes paroles, de les mettre en pratique. Psaume 119, 57, Abraham l'a fait. Cela est ma tâche. Abraham l'a fait. Ce que Dieu demandait était difficile, mais Abraham avait une telle confiance en Dieu qu'il savait que si j'offrais Isaac en sacrifice et que je devais le tuer, Dieu le ressusciterait d'entre les morts. Et il pouvait dire à ses serviteurs, Genèse 22, verset 5, « Restez ici, mon fils et moi, allons adorer et nous reviendrons. Il n'a pas dit je reviens. Il n'a pas dit je reviendrai. Il a dit nous reviendrons. Relisez tous cela. Abraham crut Dieu, croyait Dieu. La parole du Seigneur n'était pas ici en haut dans sa tête, elle était ici dans son cœur. Une révélation vivante du Dieu vivant et tous ceux qui sont issus de la postérité, de la descendance d'Abraham, croient Dieu et ils dominent les portes de leurs ennemis. Au moment où Dieu peut nous amener à lui montrer notre obéissance dans la foi, à lui prouver notre obéissance dans la foi, pas en parole, mais en acte comme Abraham. Dieu a entendu suffisamment de paroles de notre part et de la part de tous les croyants. Il ne les écoute même plus. Il cherche des gens maintenant qui, comme Abraham, se mettent en route de tout leur cœur avec foi pour offrir le sacrifice comme Dieu l'a dit. Et alors, il ne peut que donner la réponse depuis le ciel. Depuis le ciel, nous l'avons lu, comme l'explique Paul, les croyants reçoivent la promesse de l'Esprit que Dieu a voulu bénir par Christ les nations païennes et appeler à sortir celui qui se laisse appeler à sortir. Galates 3, verset 14. Loué et exalté soit son nom merveilleux et saint. Amen. Levons-nous et adorons. Père céleste, de tout notre cœur, nous te remercions ensemble pour toutes les manifestations de la grâce, pour tes paroles, oh Dieu, pour les exemples que tu mets sous nos yeux. Je te remercie pour ton serviteur et prophète Abraham, que tu as appelé d'Our en Chaldée, et d'Our en Chaldée, et qui, dès le premier instant, t'a cru, t'a obéi et t'a suivi. Ô Seigneur, tu l'as béni à chaque pas. Il a vaincu les ennemis. Il est parti sans savoir où il allait. Tu l'as pris par la main, tu l'as guidé jusqu'à ce que ses pieds parcourent tout le pays de la promesse. Lui-même a cherché la ville dont tu es le bâtisseur. Ô Seigneur, quel témoignage vivant nous a été laissé par de tels exemples. Mais Dieu fidèle, à quoi cela nous servirait-il à moi et à nous de les contempler et peut-être de les admirer? Et si nous ne marchions pas sur les traces de Dieu, si nous ne l'honorions pas par la foi et l'obéissance, recevant ainsi la même bénédiction, mon Dieu, l'heure est venue. Tu nous parles et tu nous montres le chemin et nous demandons comme Moïse, si nous avons trouvé grâce devant toi, fais-nous connaître tes plans et tes voies. Seigneur, que tu ne nous fasses plus confiance, nous le savons, mais nous te faisons confiance de tout notre cœur et de toute notre âme, car tu restes fidèle, tu restes véritable, vrai, tu es Dieu et non un homme qui pourrait se tromper. Seigneur, nous te présentons nous-mêmes. Nous te présentons nous-mêmes et tout ton peuple, tous ceux avec qui nous avons chanté et écouté ta parole et prié. Tu connais les tiens et nous te prions de bénir tous ceux qui t'appartiennent, qui sont ta propriété, ô Dieu, et de les arracher des mains de l'ennemi pour les ramener sous la conduite et la direction de ton esprit. Dieu fidèle, je te remercie pour ta douce présence d'amour ce soir. Seigneur, ta parole nous a été adressée. Quand le ciel et la terre auront disparu, ta parole existera toujours. Elle demeure pour l'éternité. Ô Dieu, bénis-nous comme tu as béni Abraham. Donne-nous un cœur obéissant et croyant pour que nous te suivions et fassions ce que tu as dit. Une fois encore, nous te présentons tous ceux que nous t'avons déjà apportés. Bénis tous ceux qui souffrent, tous les affligés, tous ceux qui sont dans le besoin. Guéris les malades, délivre ceux qui ne peuvent pas céder et se délivrer eux-mêmes, et tous ceux qui ressentent la douleur et ont besoin de réconfort. Tu es proche d'eux. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen.